Alors ce matin, si vous êtes avec nous depuis plusieurs semaines maintenant, vous vous attendez à ce que nous prêchions dans le livre des juges. C'est la dernière prédication sur ce livre des juges et ce n'est pas le texte le plus facile. Si vous trouviez que c'était difficile jusqu'à présent, celui-ci l'est à mon avis encore plus, pas forcément au niveau du texte et de la compréhension, mais au niveau de ce qui est dit, des récits qui nous sont racontés. Juste pour vous prévenir, le récit s'étend sur trois chapitres. Je ne vais pas lire les trois chapitres, je vais effectuer quelques coupes que je signalerai au fur et à mesure. Donc c'est dans le livre des juges, à partir du chapitre 19. Et donc, je commence au verset 1, Juges 19, verset 1. À l'époque où il n'y avait pas de roi en Israël, un Lévite séjournait dans un endroit reculé de la région montagneuse d'Éphraïm. Il avait pris comme épouse de second rang une femme de Bethléem en Juda, et celle-ci se fâcha contre lui. Alors les traductions plus souvent disent « celle-ci lui fut infidèle ». Elle le quitta et retourna chez son père, à Bethléem, où elle resta 4 mois. Son mari se mit en route pour la rejoindre et la convaincre de revenir. Il amena avec lui son serviteur et 2 ânes. La jeune femme fit entrer son mari dans la maison de son père. Celui-ci, dès qu'il le vit, l'accueillit avec joie. Le beau-père retint son gendre pendant 3 jours chez lui. Le Lévite et son serviteur mangèrent, burent et dormirent là. Le 4e jour, ils se levèrent de bonne heure. Lorsque le Lévite fut sur le point de partir, son beau-père lui dit « Mange quelque chose pour prendre des forces, vous vous en irez ensuite. » Tous deux se mirent à table, ils mangèrent, ils burent ensemble. Le beau-père dit au Lévite, « Accorde-toi un peu de bon temps, accepte de passer encore la nuit ici. » Le Lévite voulait partir, mais son beau-père insista tellement qu'il y renonça et resta une nuit de plus chez lui. Le 5e jour, il se leva de bonne heure pour partir. Son beau-père lui dit, « Restaure-toi d'abord, remettez votre départ à cet après-midi. » Et ils mangèrent ensemble. Lorsque le Lévite voulut s'en aller avec sa femme et son serviteur, son beau-père lui dit, « Écoute, il se fait tard, l'obscurité arrive, dormez ici. Accorde-toi un peu de bon temps et reste encore cette nuit. Demain, vous vous lèverez tôt pour rentrer chez toi. » Cette fois-ci, le Lévite refusa de rester et il se mit en route avec sa femme, ses deux ânes et leur sac. Ils arrivèrent en vue de Jébus, c'est-à-dire Jérusalem. Alors, je saute, s'il décide de ne pas s'arrêter à Jébus, qui à cette époque-là est une ville étrangère, mais ils arrivent dans la ville de Gibéa. Ils s'assoient sur la place, là où on se met lorsqu'on veut être hébergé et recevoir l'hospitalité, mais personne ne les accueille. À part un vieil homme immigré qui rentre des champs, qui les accueille et qui leur fait à manger. On continue notre lecture au verset 22. Pendant qu'ils se régalaient, des hommes de la localité, une bande de voyous malfaisants, encerclèrent la maison et frappèrent violemment contre la porte. Ils dirent au vieux maître de la maison, « Fais sortir l'homme que tu as reçu chez toi, nous voulons prendre du plaisir avec lui. » En d'autres termes, nous voulons abuser de lui. Le vieillard sortit et leur dit, « Mes amis, je vous en supplie, ne commettez pas ce crime, alors que ce voyageur est mon hôte. Ne vous conduisez pas de manière infâme. Écoutez, j'ai une fille qui est encore vierge et cet homme a avec lui une épouse de second rang. Je vais vous les amener, abusez d'elle, faites ce que vous avez envie, mais ne vous conduisez pas de façon infâme envers ce voyageur. » Cependant, ces hommes ne voulurent rien entendre. Alors le Lévite saisit sa femme et la leur amena dehors. Ils la violèrent, abusèrent d'elle toute la nuit et ne la laissèrent qu'à l'aube. À l'approche du matin, la femme vint tomber à l'entrée de la maison du vieil homme chez qui son mari se trouvait. Elle resta là jusqu'à ce qu'il fasse jour. Le matin venu, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour reprendre sa route. Et voici, sa femme, son épouse de second rang, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. « Lève-toi, dit-il, nous partons. » Mais il n'eut pas de réponse. Alors il la chargea sur son âne et il retourna chez lui. Arrivé dans sa maison, il prit un couteau et découpa son épouse de second rang, membre par membre, en 12 morceaux. Il envoya un morceau d'elle à chacune des tribus d'Israël. Il chargea ses envoyés de dire à tous les Israélites, « Une telle chose est-elle déjà arrivée depuis que les Israélites sont sortis d'Égypte? Réfléchissez à cette affaire, consultez-vous et prenez une décision. » Toutes les personnes qui voyaient cela s'exclamaient, « On n'a jamais rien vu ni rien fait de semblable depuis que les Israélites sont sortis d'Égypte. » Tous les Israélites se rassemblèrent d'un commun accord à Mispa en présence du Seigneur. Ils vinrent de partout, depuis Dan au nord jusqu'à Beersheba au sud, ainsi que depuis le pays de Galaad à l'est. Les chefs de tout le peuple et de toutes les tribus d'Israël étaient présents à cette assemblée du peuple de Dieu. Il y avait 400 000 soldats à pied, habiles à manier l'épée. Et les gens de la tribu de Benjamin apprirent que les autres Israélites s'étaient rendus à Mitzpa. Les Israélites demandèrent, « Racontez-nous comment ce crime a été commis. » Le Lévite, dont la femme avait été tuée, répondit, « J'étais entré avec mon épouse de second rang à Gibéa, sur le territoire de Benjamin, pour y passer la nuit. Les maîtres de la ville sont venus pour me faire du mal et ont encerclé de nuit la maison où je me trouvais. Ils ont voulu me tuer, ils ont abusé de ma femme et elle est morte. J'ai pris son cadavre et je l'ai découpé en morceaux que j'ai envoyé dans toutes les tribus d'Israël. En effet, un crime odieux, infâme, avait été commis en Israël. Maintenant, que vous voici tous réunis, Israélites, discutez-en ensemble et prenez une décision. » Je saute jusqu'au verset 11. « Ainsi, tous les Israélites furent d'accord de s'associer pour marcher contre Gibéa. Les tribus d'Israël envoyèrent des messagers dans tout le territoire de Benjamin pour dire « Comment un crime aussi odieux a-t-il pu être commis chez vous ? Livrez-nous maintenant les coupables, les voyous malfaisants de Gibéa. » Nous les mettrons à mort et nous ferons ainsi disparaître le mal de la tribu d'Israël. Mais les membres de la tribu de Benjamin ne voulurent pas écouter leurs frères israélites. Ils quittèrent leur ville, se rassemblèrent à Gibéa pour combattre les Israélites. Ce jour-là, on enrôla 26 000 soldats venus de toutes leurs localités, sans compter les habitants de Gibéa qui enrôlèrent 700 combattants d'élite. À ce point-là, le combat s'engage entre Israël et la tribu de Benjamin. Et il va falloir s'y reprendre à trois fois. Il va y avoir deux défaites d'Israël, bien qu'ils soient plus nombreux. 40 000 hommes vont comme ça être tués, vont perdre la vie. Mais la troisième fois, c'est la bonne. Ils ont une tactique qui marche bien. Ils attirent les habitants à l'extérieur de la ville. Ils les prennent à revers. Et quand ils sont comme ça pris en sandwich, ils arrivent à avoir la victoire. Je suis toujours au chapitre 20, le verset 42. Les Benjamites s'enfuirent devant les Israélites et se dirigèrent vers le désert. Mais il fut pris entre le gros des troupes et les soldats qui venaient de la localité et les massacraient. Les Israélites encerclèrent les combattants de Benjamin ou les poursuivirent en les mettant à mort en chemin et sans leur laisser de répit jusqu'à un endroit situé à l'est de Gibéa. Ainsi moururent 18 000 soldats de Benjamin, tous des hommes courageux. Les autres membres de la tribu de Benjamin s'enfuirent en direction du désert vers le rocher de Rimmon. 5 000 d'entre eux furent tués le long des chemins. On poursuivit le reste jusqu'à Guidom et on en massacra encore 2 000. Le total des gens de Benjamin tués ce jour-là fut de 25 000, tous des hommes courageux. Toutefois, 600 de ceux qui s'étaient enfuis en direction du désert parvinrent à s'échapper et arrivèrent au rocher de Rimmon, où ils demeurèrent 4 mois. Les Israélites se retournèrent contre ceux de la tribu de Benjamin qui restaient. Passant d'une ville à l'autre, ils massacrèrent tous ceux qui s'y trouvaient, les hommes aussi bien que le bétail. Puis ils y mirent le feu à toutes les localités qui se trouvaient sur leur chemin. lorsque les hommes d'Israël s'étaient réunis à Mispa, ils avaient fait le serment qu'aucun d'eux ne donnerait sa fille en mariage à un homme de la tribu de Benjamin. Cette fois-ci, le peuple se rendit à Bethel et les gens restèrent assis jusqu'au soir devant Dieu. Ils se lamentèrent et pleurèrent abondamment et disaient « Pourquoi ce malheur, Seigneur, Dieu d'Israël ? Pourquoi se fait-il qu'aujourd'hui il manque à Israël une de ses tribus ?» Tôt, le lendemain matin, le peuple construisit un autel à cet endroit et offrit des sacrifices complets et des sacrifices de paix. Puis les Israélites se demandèrent les uns aux autres « Parmi toutes les tribus d'Israël, y en a-t-il une qui ne soit pas venue à l'assemblée tenue devant le Seigneur à Mispa ?» En effet, ils avaient fait le serment solennel de mettre à mort celui qui ne se rendrait pas à Mispa. Et ils se laissèrent émouvoir au sujet de leur frère de Benjamin et disaient « Aujourd'hui, une tribu est en train de disparaître d'Israël. Que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux de Benjamin qui ont survécu, puisque nous avons promis solennellement devant le Seigneur de ne pas leur donner nos filles en mariage ?» Ils s'informèrent pour savoir s'il y avait un groupe parmi les tribus d'Israël qui n'était pas venu à Mispa se présenter devant le Seigneur, et l'on découvrit que personne de Yabesh en Galad ne s'était rendu au camp où avait lieu l'assemblée. Du coup, les hommes d'Israël vont à Yabesh et ils tuent hommes, femmes, enfants. Ils ne laissent que les jeunes filles qu'ils donnent en mariage aux survivants de la tribu de Benjamin. Et comme il en manque encore quelques-unes pour que chaque homme ait sa femme, ils organisent encore un enlèvement pour que les Benjaminites puissent tous avoir une femme. On arrive à la fin de ce passage, chapitre 21, verset 23. Les hommes de Benjamin suivirent ce conseil. Ils enlevèrent autant de femmes qu'il leur en fallait parmi les jeunes filles qui dansaient à Silo et les emmenèrent. Ils s'en retournèrent dans leur territoire, reconstruirent leur ville et s'y installèrent. Les autres Israélites quittèrent l'assemblée. Chacun rejoignit sa tribu et son clan et regagna sa part de territoire. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun agissait comme il lui semblait bon. Jusqu'ici, notre lecture. Pas facile, cette lecture. Difficile à écouter. Difficile de voir ce mal, ce massacre, comment des innocents sont violentés. Pendant cette série de prédications, on vous a souvent montré une spirale pour montrer comment le peuple tournait en rond, infidélité, puis sauvé, puis on s'éloigne à nouveau. Et là, c'est vraiment, on est au fond de la spirale. On touche le fond. Ce récit est difficile, et celui-ci plus que les autres. Et pourtant, il est écrit, c'est Paul qui écrit à Timothée, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Philippe a rappelé la semaine dernière, avec un texte peu réjouissant également, notre objectif dans la prédication, c'est d'annoncer une bonne nouvelle. Voilà un défi. Lorsque on lit de tels textes, et j'ai l'impression que je vais en gros répéter ce qu'il a dit. D'ailleurs, on retrouve le même refrain dans ce texte que dans celui que nous avons lu la semaine dernière. À cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël, et chacun agissait comme il lui semblait bon. Ce verset laisse penser qu'on va arriver à la même conclusion que la semaine dernière. À tel point qu'on peut se poser la question pourquoi l'auteur des Juges met ces deux récits. La semaine dernière, ce récit du culte complètement corrompu qui perd son sens, et aujourd'hui, ce récit d'une succession de massacres. Ceux qui connaissent l'Évangile se souviennent peut-être de ce que dit Jésus lorsqu'il est interrogé sur quel est le plus grand commandement. Jésus répond que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son être, de tout son cœur, de toute sa pensée, et que le second commandement qui lui est semblable, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et j'ai un peu l'impression que la conclusion, l'épilogue du livre des juges, dit comme ça en deux temps, eh bien, voilà ce qui arrive lorsqu'on n'aime pas le Seigneur correctement, lorsqu'on prend son culte à la légère, lorsqu'on ne le met pas à la première place. Annoncer une bonne nouvelle, donc. Quand je regarde ce texte, il y a trois choses que je remarque et j'aimerais avancer en trois temps, trois leçons que je tire. Et la première, c'est, premier constat, c'est que la Bible ne tait pas le mal. La Bible ne tait pas que le mal existe. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de discuter avec des amis, c'est une objection classique qui peut être opposée à des croyants. Si Dieu existe, comment peut-il se passer des choses aussi affreuses dans le monde? Un Dieu d'amour ne pourrait pas permettre de telles choses, nous dit-on. Le premier constat, c'est que la Bible n'est pas embarrassée par les choses affreuses. Elle ne cache pas le mal. Ces choses-là existent. Dieu est au courant. Et dans ce récit, on est servi. On y voit l'infidélité conjugale, on y voit le manque de respect lorsque le père retient contre son gré son gendre et ne respecte pas son désir de partir. On voit une prise de risque inconsidérée en partant le soir sur les routes. On voit aussi les habitants de Gibéa qui refusent d'accueillir l'homme de passage comme ils devraient le faire. Le harcèlement du groupe d'hommes, la lâcheté du Lévite qui envoie sa femme pour sauver sa peau. Le viol collectif d'une violence particulièrement marquante. On voit aussi la non-assistance du Lévite lorsque la femme revient s'écrouler à la porte, encore vivante. Et d'ailleurs, on ne sait même pas quand est-ce qu'elle meurt. On voit l'horreur de la profanation du corps lorsqu'elle est découpée comme un objet pour marquer les esprits. On voit aussi, je ne sais pas si vous avez fait attention, le mensonge du Lévite lorsqu'il raconte son récit, quand il dit que c'est les maîtres de la ville qui ont commis cet acte répugnant alors que c'est une bande de voyous. Puis quand il présente les choses, qu'ils voulaient le tuer, qu'ils ont abusé de sa femme et qu'elle est morte, ce n'est pas tout à fait vrai. Il oublie de dire que c'est lui qui a livré sa femme. On voit ensuite un procès expéditif. On ne fait pas trop de recherches, on ne fait pas d'enquête. La décision d'en découdre me semble déjà avoir été prise avant, puisqu'il y a 400 000 hommes qui arrivent armés. Cette foule est émue par son émotion. Il y a un truc, il faut qu'on agisse, on ne réfléchit pas. Et puis, du côté des Benjaminites, il y a aussi la protection des coupables. Non, on ne vous les livrera pas, ils sont des nôtres. Solidarité avant tout. Peu importe la justice. Puis après, on voit le refus de la responsabilité. Oh Seigneur, pourquoi ce malheur? Je ne sais pas, c'est peut-être vous qui avez fait quelque chose, non? Il y a la décision hâtive sous le coup de l'émotion. Et puis au passage, on apprend qu'il y a encore un serment irréfléchi. Il y a le massacre d'une ville juste pour prendre les jeunes femmes. L'organisation d'un enlèvement collectif, ce qui donne l'impression que les jeunes femmes sont comme des marchandises. En filigrane, la femme est considérée dans ce récit comme un objet de protection, un objet qu'on prend, qu'on donne. On pourrait aussi parler de la façon dont il consulte Dieu. Il y a tellement à redire, il y a tellement de mal dans ce récit. Il n'y a rien à sauver, en fait. Ce que je trouve surprenant et même troublant en lisant ce texte, c'est que l'auteur du livre des juges ne semble pas porter de jugement sur ce qui se passe. Dans d'autres livres de la Bible, l'auteur dit, lui, il a fait ce qui était bon aux yeux de Dieu, lui, il n'a pas fait ce qui était bon aux yeux de Dieu. Dans d'autres récits, on voit des prophètes qui viennent parler au nom de Dieu pour reprendre, pour dire ce que tu as fait, c'est mal. Et là, rien. Juste une succession de faits, un exposé froid. Comme si la Bible venait nous interroger. Qu'en pensez-vous ? Réfléchissez, regardez ce récit. Qu'en pensez-vous ? C'était ce premier constat, la Bible ne tait pas le mal. Le deuxième constat, c'est que la Bible explique pourquoi le mal. Et ce refrain, il est important. À cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun agissait comme il lui semblait bon. Chacun agissait comme il lui semblait bon. A priori, on peut se dire que c'est pas mal d'agir comme il nous semble bon. Il vaut mieux agir comme il me semble bon que comme il me semble mal. Sauf que le peuple avait mieux à faire que de se fier à son propre jugement. Dieu lui avait donné une loi pleine de sagesse qui permettait de faire mieux. Cette loi qui finit comme ça, on le voit à la fin du livre de Deutéronome, Dieu qui dit « Je place devant toi la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisis donc la vie et tu vivras, toi et ta descendance. » La loi de Dieu. Ce que Dieu commande, ce qu'il enseigne, ça apporte la vie. La loi est bonne. C'est elle qui devrait être suivie plutôt que de faire ce qui semble bon à chacun. Parce que, en fait, ce qui semble bon à chacun, c'est une des définitions du péché. Lorsqu'on remonte et qu'on regarde le péché originel avec Adam et Ève, le problème, ce n'est pas d'avoir croqué dans une pomme. D'ailleurs, le récit ne dit pas qu'il s'agit d'une pomme, mais passons. Le problème, c'est que Adam et Ève ont fait ce qui leur semblait bon. Ils ont écouté ce que Dieu a dit, ils ont écouté ce que le serpent a dit, puis ils ont évalué. Il est écrit, la femme vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder, qu'ils devaient être bons et qu'ils donnaient envie d'en manger pour devenir plus intelligent. Elle en prit un et en mangea, puis elle donna à son mari qui était avec elle, il en mangea aussi. Ils ont fait ce qui leur semblait bon plutôt que d'écouter ce que leur avait commandé Dieu. Je trouve le livre des juges criant d'actualité. Et le texte que nous avons lu l'est encore. On voit dans notre monde des trucs affreux. On voit aux 20h, on en entend parler dans les journaux. Est-il nécessaire de citer les différents faits divers ? Nous les connaissons. Lors de notre week-end d'église, Daniel Lichty, notre orateur, nous a dit que nous étions dans une ère de post-vérité. C'est-à-dire que la société dans laquelle on vit se base non plus sur la vérité et la réflexion, mais sur ce qu'elle ressent. Ce qui me permet de faire des choix, ce sont mes sentiments. Si je ressens que c'est bon pour moi, alors je vais le faire. On a sans doute du mal, je l'espère, à s'imaginer participer à un viol collectif ou à l'extermination de villageois désarmés. Mais qu'aurions-nous fait dans la situation de l'homme qui doit raconter son histoire? Faut-il avouer qu'on n'a pas été clean ou enrober le récit? Après tout, ce qu'ont fait ces hommes mérite la mort. Qu'aurions-nous fait acculer dans la maison et voir le choix se réduire, sa femme ou lui? Qu'aurions-nous fait dans la situation des habitants de Benjamin? Aurions-nous jeté en pâture quelques-uns des nôtres à une foule en colère qui n'a pas pris le temps de faire un procès juste? Qu'aurions-nous fait avec les 11 tribus? Aurions-nous été capables de faire taire l'émotion pour prendre le temps d'enquêter et de prendre une décision réfléchie? Aurions-nous fait entendre notre voix au milieu de la foule qui avait décidé ce qu'elle voulait faire? Après tout, ce qu'ont fait ces voyous mérite la mort. À la question « Pourquoi y a-t-il le mal dans le monde ?», la Bible répond « Parce que chacun agit selon ce qui lui semble bon, plutôt que de suivre le commandement de Dieu. » À la question « Pourquoi arrive-t-il à des innocents des horreurs ?», la Bible répond « Parce que chacun agit selon ce qui lui semble bon. C'est le monde que vous avez mis en place. » Et à la question « Pourquoi Dieu n'intervient pas ?», j'ai envie de répondre « C'est fort quand même que l'humanité reproche à Dieu ce qu'elle fait elle-même. » Comme si un garçon qui frapperait sa petite sœur disait ensuite à ses parents que c'est de leur faute parce qu'ils ne l'ont pas empêché. Mais, et c'est la bonne nouvelle, Dieu intervient et offre la solution. Et c'est mon troisième constat. La Bible offre une solution. À cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël. Philippe en parlait la semaine dernière. Dans cette succession de dérapages qui mène à l'horreur, il manque quelqu'un pour dire « Stop, là ça va trop loin ». Il manque quelqu'un de responsable. Et c'est un rôle que Dieu donne aux autorités. On peut relire l'Épître aux Romains, le chapitre 13, la Bible dit que les autorités sont données par Dieu pour nous aider en établissant des lois et en les faisant respecter. Car l'autorité est au service de Dieu pour t'encourager à agir bien. Et en même temps, nous le savons, et la Bible ne nous dupe pas, les autorités sont loin d'être parfaites. L'expérience des rois donnés à Israël est loin d'être concluante. Et le premier d'entre eux, Saül, qui sera établi bientôt, a été un fiasco. Mais au milieu de ces rois, Dieu a choisi David, un roi qu'il a jugé bon et à qui il a promis « Un de tes descendants règnera toujours après toi, car le pouvoir royal de ta famille sera inébranlable. » Et ce descendant, nous le savons, c'est Jésus, le descendant de David. Il est ce descendant qui règne pour toujours. Dans cette confession de foi ancienne qui est le symbole des apôtres, nous disons « Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est monté aux cieux, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. » Jésus est à la droite de Dieu et il règne aujourd'hui déjà. Non seulement il est venu pour nous donner sa loi et les évangiles nous disent ce qu'il faut que nous fassions, mais il règne au milieu de nous, il est présent au milieu de nous. Il nous promet « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et il le fait en nous donnant son esprit. J'inscrirai mon enseignement non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience. Je le graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Voilà la promesse de Dieu. La promesse de nous envoyer un roi qui sera avec nous, qui pourra nous transformer. Et ce roi est venu et nous entrons bientôt dans le temps de l'Avent. Nous nous tournons vers la venue de Jésus. Je pense que vous voyez où se trouve la bonne nouvelle dans ce texte, dans la promesse du roi. Pour recevoir une bonne nouvelle, pour voir une bonne nouvelle, il faut reconnaître qu'on en a besoin. Si on n'a besoin de rien, quelle nouvelle peut-on attendre et trouver bonne ? Avec le récit que nous avons lu, la Bible nous invite à regarder en face notre humanité. Voici jusqu'où l'homme peut aller dans le mal. Ce n'est que quand nous réalisons que nous sommes dans une impasse, que nous pouvons reconnaître que nous avons besoin d'aide. Alors, nous sommes prêts à recevoir la bonne nouvelle. Ce texte nous dit que nous avons besoin d'un roi. La Bible nous dit que ce roi règne aujourd'hui. Jésus règne aujourd'hui. Et merci Anne-Marie d'avoir partagé avec nous ces quelques pensées issues de l'Apocalypse où on voit que Jésus règne aujourd'hui. Être chrétien, ce n'est pas croire que tout va bien dans le monde. Être chrétien, ce n'est pas se croire meilleur que les autres. Être chrétien, c'est croire que l'homme est mauvais et que la solution, c'est d'accepter Jésus comme roi, de se soumettre à lui, de ne plus agir comme bon nous semble, mais de marcher à sa suite et de lui obéir. La semaine prochaine, nous aurons des baptêmes, Terry l'a dit tout à l'heure. Et c'est justement la mise en scène de l'acte de soumission, de se détourner de sa vie ancienne où j'agis comme bon me semble, pour vivre dans la soumission à Jésus. Alors, je vous invite à vous réjouir de cette bonne nouvelle, de ce que nous avons, que Jésus règne. Et comme Anne-Marie nous a conduit tout à l'heure, je vous invite à vous lever, j'invite les musiciens à revenir et de chanter ensemble que Christ est roi.